VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le groupe État islamique en Libye. Offensive des forces pro-gouvernementales libyennes contre la ville de Sirte, principale base des djihadistes dans le pays. L'attaque est menée à l'artillerie lourde et les positions de l'EI aux environs du centre de conférence de Ouagadougou à Sirte font l'objet de bombardements. Les troupes pro-gouvernementales ont réussi à pénétrer dans la ville hier après avoir pris le contrôle de ses entrées est et ouest. La marine libyenne bloque les accès maritimes dans le cadre de cette opération baptisée Libération de Sirte et en cours depuis le 12 mai. Gambie, l'ambassade américaine à Banjul est fermée depuis hier, à l'exception des services essentiels. Une décision prise après celle des autorités gambiennes de retirer leurs policiers assurant la protection de l'édifice. Les précisions de Morgane Guiriec.
Aucune explication n'a été donnée par le gouvernement du président Yahya Jammeh à cette décision qui survient après l'arrestation le 16 avril d'une citoyenne américaine de 45 ans durant une visite à sa famille dans le pays. Fanta Darbo-Jawara, naturalisée américaine, a été arrêtée après une manifestation de l'opposition. Selon sa famille, elle n'avait rien à voir avec la manifestation et attendait simplement un taxi quand elle a été arrêtée et battue par la police. Le président du parti d'opposition UDP, Dembo Bojang, affirme que Mme Jawara est détenue dans la maison de l'avocat des droits de l'homme, Ousseinou Darbo, située près de l'ambassade des États-Unis. S'exprimant sous anonymat, un diplomate du département d'État américain, que cite l'AFP, a indiqué que les États-Unis ont fait part de leur inquiétude à la Gambie à propos du retrait des policiers. Il s'est toutefois refusé à établir un lien entre cette affaire et la polémique autour de l'arrestation de Mme Jawara.
Violence au Nigeria, Amnesty International a accusé aujourd'hui les forces de sécurité nigériennes d'avoir abattu des militants indépendantistes non armés avant et pendant une manifestation marquant l'anniversaire du début de la guerre civile du Biafra. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Selon la police, 10 personnes ont été tuées, 5 dans la ville d'Onitsha dans l'état d'Anambra et 5 dans la ville d'Asaba dans l'état voisin de Delta dans le sud-est du Nigeria. Au cours de violences liées à ces commémorations le lundi 30 mai, le mouvement Peuple indigène du Biafra, IPOB, un groupe indépendantiste à l'origine de ces commémorations, soutient de son côté qu'au moins 35 de ses membres ont été tués à Onitsha. Au cours des visites des hôpitaux et des morgues, Amnesty a établi un bilan de 17 morts et 50 blessés à Onitsha, mais le chiffre réel est sans doute plus important, prévient l'Organisation de défense des droits de l'homme dans un communiqué. Certains des morts et des blessés ont été atteints par balles dans le dos, ce qui indique qu'ils étaient en train de fuir quand ils ont été touchés, précise Amnesty.
Politique en RDC, l'opposition congolaise réunie près de Bruxelles a décidé dans la nuit de jeudi à vendredi de s'unir au sein d'une nouvelle structure baptisée Rassemblement. Elle exige le départ en fin d'année du président de la République, Joseph Kabila. L'accord des partis de l'opposition a été annoncé à l'issue de 2 jours de conciliabule à huis clos. On écoute Joseph Olengakoy, le porte-parole de la dynamique de l'opposition, à la clôture du conclave de Bruxelles.
Nous venons de réaffirmer ici l'unité de l'opposition et notamment dans l'unité d'action. Nous venons d'appeler à Joseph Kabila de libérer tous les prisonniers politiques et les médias d'État auxquels il a complètement à son service. Nous avons aussi trouvé d'autres résolutions, dont notamment à tous les Congolais qui sont dans la diaspora, interdits de séjour dans leur pays, d'enlever ces mesures-là pour que les Congolais reviennent dans leur pays, qui est la terre de leurs ancêtres. Nous avons aussi demandé à Kabila de se préparer que le 19 décembre 2016, à minuit, son mandat prendra fin et le 20, le peuple s'achargera.
Joseph Olengakoy, porte-parole de la dynamique de l'opposition, une plateforme d'opposition en RDC. Et puis en RCA, poursuite ce vendredi au Parlement des débats sur la politique générale du gouvernement, des débats qui ont déjà duré toute la journée d'hier. Le document est diversement apprécié par les élus de la nation, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Toute une journée n'aura pas suffi aux députés pour examiner le plan d'action présenté mardi par le chef du gouvernement. Quatre piliers résumés en 73 pages. Le document a été diversement apprécié par les élus de la nation. Timoléon Baïkoua, député de Power 1, deuxième vice-président du Parlement.
Je pense que chaque Centrafricain s'est retrouvé à travers ce pléthore de constats faits par le Premier ministre. Il a parlé de quatre priorités sur la relance économique, sur le problème de la sécurité, sur la bonne gouvernance et enfin sur les problèmes sociaux. Nous avons bien entendu, les débats ont commencé. Eh bien, l'exercice a commencé.
Nombreux sont ceux qui se sont exprimés en faveur de ce programme du gouvernement. Toutefois, des députés comme Laurent Gonbaba de Baboua 1 y voient quelques manquements.
Malheureusement, ce programme ne précise pas un chronogramme de sa mise en œuvre ainsi que les moyens de la mise en œuvre de cette politique. C'est une faiblesse que j'ai relevée. Quand on parle de la politique générale, c'est une conception que nous voyons à ce niveau-là.
Les débats vont se poursuivre ce vendredi. Ils seront sanctionnés par le vote de la motion de confiance. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Conflit en Syrie, le principal axe de ravitaillement du groupe État islamique entre la Syrie et la frontière turque est coupé après l'encerclement total aujourd'hui de la ville de Minbej. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. D'après Rami Abdelrahman, directeur de l'OSDH joint par l'AFP, l'organisation djihadiste contrôle encore une bande frontalière et des routes secondaires vers la Turquie, mais celles-ci sont plus dangereuses et difficiles d'accès selon lui. Proche-Orient toujours, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui le bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza jusqu'à dimanche minuit, renforçant les restrictions contre les Palestiniens, annoncé après l'attentat qui a coûté la vie à quatre Israéliens mercredi à Tel Aviv. Le bouclage annoncé est un tour de vis supplémentaire de la part du gouvernement israélien à la suite de l'attentat commis mercredi soir par deux Palestiniens à Tel Aviv. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré jeudi avoir pris la pénible et douloureuse décision de retirer temporairement la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen de la liste des pays violant les droits des enfants. Ban Ki-moon a dit avoir été contraint de prendre cette décision sous la pression indue des partisans de la coalition qui, a-t-il dit, ont menacé de cesser leur contribution financière à plusieurs programmes de l'ONU. L'actualité aux États-Unis, alors que le monde entier s'apprête à rendre un dernier hommage à Mohamed Ali à Louisville, dans l'État du Kentucky, son absence se fait particulièrement ressentir à West End, le quartier de son enfance. Ici, il était le champion du peuple, la voix de l'espoir. Ramon Taylor de la Voix de l'Amérique a visité West End. Son récit est présenté par Lionel Gaïma.
Comme beaucoup d'habitants de Louisville, le rappeur et activiste communautaire Chris Flo Forehand est fier de sa ville. West End, son quartier fut jadis celui de Mohamed Ali lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui encore, l'impact du défunt y est perceptible. Survivant d'une attaque à l'arme à feu, Forehand met un point d'honneur à sensibiliser les enfants sur les gangs dans les endroits à risque comme West End. Nous devons donner espoir à nos enfants et aux plus jeunes. Ali a laissé un héritage d'espoir pour les jeunes. Natif de Chicago, Mark Stampley vit maintenant à Louisville où il n'oubliera jamais sa rencontre avec Mohamed Ali.
Il turned to me and he shook my hand.
Il s'est tourné vers moi et m'a serré la main. Les gens connaissent de nombreux problèmes, en particulier les Noirs. Et vous avez vu comment il en a parlé. Il nous rendait puissants du simple fait d'être en sa présence. Âgée de 79 ans, Marjorie Hoffman a passé toute sa vie à West End. Elle se souvient d'avoir souvent joué avec Ali et ses amis dans un parc public proche de sa maison. C'est un exemple pour la nouvelle génération, estime-t-elle. Si les jeunes s'arrêtent un instant, réfléchissent et font confiance à Dieu, ils peuvent devenir d'autres Mohamed Ali, a expliqué l'ancienne voisine d'Ali.
Il disait toujours qu'il allait devenir champion, le plus grand boxeur. Et vous savez, lorsque les gens racontent des choses dans leur enfance, nous avions ri de tout cela à l'époque. Mais tout ce qu'il a dit s'est réalisé.
Jeunes et vieux, tous les habitants de West End, l'ancien quartier de Mohamed Ali à Louisville, ont chacun une histoire racontée sur lui. Ils assurent que le défunt champion est resté dans leur vie longtemps après être devenu une célébrité mondiale.
Et pour terminer du sport, le rideau de l'Euro 2016 de football se lève enfin. La France affronte la Roumanie ce soir à 19h GMT au Stade de France en ouverture du troisième grand événement sportif mondial. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.